C'est exactement ça. Merci à tous d'être revenus pour ceux qui sont là à l'heure. Je pense qu'on va être rejoints par tout le monde très bientôt. Nous attaquons notre troisième séquence sous un format que vous connaissez désormais très bien. On va parler maintenant de rayonnement international, de la manière selon laquelle, grâce à nos événements, nos grands événements, nos sommets internationaux, la France peut rayonner de manière un petit peu différente. Et bien sûr, aujourd'hui, l'angle, c'est les co-responsabilités, c'est la manière dont on organise ces grands événements et c'est aussi les messages qu'ils portent. Sur scène, j'ai donc le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Thébault, ambassadeur et secrétaire général à l'organisation du G7. Comme vous le savez tous, la France préside l'organisation du G7 cette année. Le grand sommet sera organisé à Biarritz. Donc, monsieur Thébault, si vous voulez bien, s'il vous plaît, me rejoindre. Alors, on peut-être passer par les marches là-bas et puis vous installer un petit pupitre pour l'instant. J'accueille aussi Santiago Lefebvre, qui est le fondateur d'un événement que beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'appelle Change Now, et comme je le disais tout à l'heure, qui va nous faire quelques annonces sur la prochaine édition. Comme pour les autres grandes séquences, nous avons la chance d'avoir une association professionnelle qui regroupe un certain nombre d'adhérents, d'organisateurs d'événements et de lieux événementiels qui parrainent cette séquence. Ici, c'est France Congrès et Événements. Philippe Augier ne pouvait pas se déplacer aujourd'hui, il le savait de longue date, mais il a eu la gentillesse de nous faire une petite vidéo qu'il nous envoyait tout à l'heure. Donc, surprise, voilà, introduction par Philippe Augier, je crois que c'est 2 minutes, pour nous expliquer pourquoi France Congrès parraine cette séquence. On l'écoute.
Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Retenu à Deauville, je ne pouvais être parmi vous aujourd'hui, mais le président de France Congrès événement que je suis voulait tout de même apporter une petite contribution. Tout d'abord, un grand merci et beaucoup de félicitations à Béatrice pour son militantisme actif, pragmatique, au service de la RSE, aussi bien auprès des entreprises que des collectivités publiques. Merci Béatrice pour tout ce que tu fais. Au-delà de ça, je voudrais dire à quel point France Congrès et Événements est attaché à cette démarche d'accompagnement également, puisque nous accompagnons depuis plusieurs années déjà tous nos adhérents qui le souhaitent dans leur démarche de certification et dans, aussi bien d'ailleurs à travers la charte que France Congrès Événements a mise en place, mais aussi à travers les démarches ISO tout simplement. Et puis je voudrais vous dire aussi que nous avons cette même démarche avec des entreprises dites vertueuses en fonction de nos préoccupations d'aujourd'hui, en ayant créé ce club InnovNTech, 25 entreprises qui bénéficient du réseau de France Congrès et Événements de façon à faire connaître leur façon à elles, avec leurs produits, d'accompagner les entreprises qui sont attachées à la démarche RSE. Donc je vous souhaite d'excellents travaux, je crois qu'ils sont largement commencés, compte tenu de l'heure de cette table ronde. En tout cas, sachez que France Congrès et Événements est dans cette démarche et souhaite que ce genre de réunion où vous êtes très nombreux à essayer de collaborer, parce que je crois que la démarche collaborative va être de plus en plus efficace, eh bien, je souhaite que nous continuions à travailler tous ensemble, et ce genre de réunion doit nous fédérer tous, et j'espère que dans l'avenir, tous seront là.
Monsieur l'ambassadeur, on vous a confié il y a quelques mois la délicate tâche d'organiser un sommet international qui est le G7, qui se déroulera donc à Biarritz au mois d'août. Alors, juste pour les autres séquences, parfois les intervenants aimaient bien debout ici et puis parler. Donc, si vous avez.
Carrément.
Si vous sentez. Carrément. Donc, faites comme vous vous sentez. Voilà, comme vous vous sentez le plus à l'aise. Mais on peut aussi se retrouver au centre. On vous a confié cette délicate mission, et puis vous avez décidé, hein, je pense que ça fait, c'est une décision aussi personnelle, mais vous allez nous raconter pourquoi, ou est-ce que c'était que vous, ou est-ce que c'était collectif, de vous engager vers une certification ISO 20121, donc une certification qui va démontrer que l'événement est organisé de manière exemplaire, qu'il prend en compte ses impacts sur l'environnement, sur la société. Pourquoi cette décision ?
Alors tout d'abord, merci Béatrice de cette occasion de parler, puis surtout d'échanger, parce que je pense qu'au-delà de ce que je pourrais raconter, ce qui est intéressant, c'est l'interaction. Et pour vous dire que c'est bien une interaction que je cherche, c'est que la décision dont vous parlez, elle est à la fois la décision d'une personne, mais ce n'est pas moi, et c'est la décision d'une équipe, parce que de toute façon, la réalisation, c'est une équipe. La décision d'une personne, bien, c'est la validation par le président de la République, puisqu'un sommet du G7, c'est le président de la République française qui l'accueille en France. Et donc, les modalités de son organisation lui sont soumises. Et c'était son souhait, sur ce sujet, comme sur les autres sujets du G7, des sujets de fond sur la lutte des inégalités, qui sont la priorité du sommet de notre présidence, eh bien, d'afficher une cohérence entre la forme et le fond. D'afficher une cohérence parce que, comme je crois que c'est Victor Hugo le disait, souvent la forme exprime le fond. Et donc, nous pouvions difficilement faire du climat, des enjeux climatiques, un sujet majeur de notre présidence, avec quelques précautions, mais sans en même temps nous engager, nous exposer, parce que c'est aussi un risque, sur la question RSE, exemplarité, en fait, environnementale, sociale. Donc, c'est ça le moteur. Être cohérent et être concret. C'est aussi, je dirais, le leitmotiv de notre présidence, c'est faire en sorte d'illustrer des solutions. Alors, on voudra trouver des solutions dans le domaine politique, aux questions qui seront posées aux chefs d'État et de gouvernement, mais on voudra aussi, dans toute la montée vers le sommet, s'efforcer de trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'on a fait, finalement, après réflexion, avec l'équipe, et je salue notamment Anne, qui est dans la salle, notre responsable exemplarité sociale et environnementale.
Anne peut peut-être lever la main.
Voilà, Anne est là. Mais vous avez déjà dû la rencontrer pour nombre d'entre vous. Elle a un sourire charmant, mais elle a une volonté de faire. Et d'ailleurs, ça va bien ensemble. Nous avons voulu faire en sorte de décliner cet engagement sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, le plus évident, c'était celui de la certification. La certification, c'est le message. Quelque part, c'est le drapeau. Donc, 20121 s'imposait de fait, au minimum, pour notre fonctionnement en tant que secrétariat général dans notre démarche d'approche, idéalement pour le sommet lui-même, dans sa réalisation, et puis le pompon, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce soit pour l'intégralité de la présidence, parce que la démarche d'une présidence française du G7, c'est pas simplement le sommet qui clôt la présidence, et qui est l'événement majeur suivi dans le monde entier, c'est aussi toute une séquence d'événements ministériels, réunions ministérielles, qui font que, sur des thèmes particuliers, on illustre le travail du G7. Donc, l'objectif, c'est de faire certifier cette présidence dans son fonctionnement, dans ses résultats, au titre du 20121, et c'est la démarche que nous avons engagée maintenant, et qui s'avère d'ores et déjà fructueuse, ne serait-ce que parce qu'elle nous conduit à la fois à vérifier ce qui nous semblait être peut-être des évidences qui n'en sont pas toujours, mais également en sens inverse, à nous poser des questions qu'on ne se serait peut-être pas posées, et avoir le plaisir, parfois, de découvrir certes des impasses, mais surtout de découvrir des façons d'aller de l'avant. Alors, de ce point de vue-là, il y a trois choses que je retire d'ores et déjà de cette expérience, et c'est provisoire, donc vous voyez, c'est riche comme matière. La première, c'est que dès qu'on commence à ouvrir la boîte, comme on dit, eh bien, il peut y avoir plein d'idées qui apparaissent. Et alors là, on se dit, avec Anne, ma foi, on va peut-être innover. On va peut-être innover et on va peut-être même faire plus que du 20-121. Parce que quand on regarde, finalement, ces sommets du G7, aucun d'entre eux n'a jamais été certifié. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au-delà du fait de déjà les faire certifier ? Eh bien, c'est faire en sorte de franchir un cran. Et ce cran, c'est finalement de se dire, mais pourquoi ces sommets ne sont-ils pas également labellisés sur un sujet très très précis, qui est un sujet prioritaire pour le président de la République, qui est un sujet prioritaire pour beaucoup d'entre nous, qui est l'égalité femmes-hommes. Donc, il y a bien des labels pour les entreprises, il y a bien des labels pour les administrations, mais on s'aperçoit que dans ce monde particulier de l'événementiel, au fond, la préoccupation égalité femmes-hommes n'est pas prise en compte en tant que telle. Alors voilà, le sommet du G7, on s'est mis en équipe, en situation de faire en sorte de créer un label, les éléments d'un label qui, à terme, l'espère-t-on, seront un élément constitutif aussi de la certification. Donc, illustrer la dimension sociale. La deuxième chose, c'est faire en sorte que ce qu'on va faire dans le domaine environnemental, ça ne soit pas comme, entre guillemets, d'habitude. Je ne dis pas que le d'habitude n'est pas bon, utile, indispensable. Au contraire, on s'aperçoit d'ailleurs que ce n'est pas si facile que ça de le réaliser. Faire attention à ses consommations énergétiques, à ses productions potentielles de déchets, à l'utilisation de circuits courts, à la valorisation de toutes les choses qui font qu'en fait on est environnementalement plus exemplaire. Mais enfin, quelque part, premièrement, c'est un peu toujours la même chose. Pas facile, mais c'est un peu toujours la même chose. Donc on s'est dit, mais finalement, encore une fois, penser en dehors de la boîte, c'est quoi ? Ben c'est faire en sorte que l'exigence environnementale qu'on se donne au sein de l'organisation pour le sommet, si possible, rayonne. C'est-à-dire faire en sorte qu'un sommet, qui est un instrument d'influence extraordinaire au niveau du monde entier, on va voir 3 500, 4 000, peut-être 5 000 journalistes du monde entier qui vont venir, eh bien, ce soit une occasion de montrer non seulement qu'on sait faire en termes d'exemplarité, mais que grâce à cela, on a engagé un processus avec d'autres, avec le territoire notamment qui nous accueille, pour faire en sorte qu'il y ait un plus. Et de ce point de vue-là, ça a commencé, ça marche. On a avec nous la région, Nouvelle-Aquitaine, on a avec nous le département, Pyrénées-Atlantiques, on a avec nous la communauté d'agglomération, Pays Basque, la plus grande agglomération de France, 158 communes, j'espère que j'en oublie pas. On a avec nous la ville de Biarritz, et c'est un effort commun pour contribuer à cette dimension verte, mais pas la dimension verte que du sommet, comme s'il était finalement enclos dans un espace limité, mais pour que ça soit l'occasion de mobiliser des énergies, de trouver des solutions avec les collectivités locales, avec des entreprises, avec les ONG, avec le territoire et la population, pour faire en sorte que cet esprit de meilleure pratique, finalement, soit un esprit qui, finalement, se dissémine et irrigue, finalement, le territoire dans lequel on se trouve. Dernière chose, parce que je vous avais promis d'ouvrir 3 boîtes, eh bien, c'est faire en sorte, effectivement, que, et on est très ambitieux, je le reconnais, mais si on n'a pas d'ambition, de toute façon, on ne risque pas de progresser, c'est de faire en sorte que non seulement on soit très très content à la fin en se disant « mais c'est super, on a été certifié, la présidence a été certifiée, on a accroché la notion de label, ça intéresse, d'autres vont le faire, on a engagé le territoire nous a apporté des solutions, on s'est mis mutuellement en valeur, on a progressé ensemble. » On s'est dit « mais enfin tout ça c'est très bien, mais dès qu'on atteindra la lumière, même si elle est d'origine verte et éco-certifiée, qu'on quittera le bâtiment, certes recyclable, ben, qu'est-ce qu'on fera ? Qu'est-ce qu'on aura laissé comme legs ? Et c'est l'idée de faire en sorte de commencer d'ores et déjà à penser aux legs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va rester de cette dynamique ponctuelle ? Enfin, ponctuelle, ça aura duré 9 mois. Ben, on aura un beau bébé, mais quel va être son avenir ? Et l'idée, et je crois qu'on se recoupe pas mal avec ce que voulait Philippe Augier, c'est faire en sorte que, du coup, on ait avec nous un territoire qui va s'engager de manière durable dans l'éco-certification. Pourquoi ? J'en suis persuadé, je suis prêt à répondre des questions là-dessus, mais la diplomatie d'influence, l'influence culturelle, l'influence politique, repose aussi sur la capacité à finalement illustrer le fait que l'on est un cran en avance. Si nos territoires, si nos lieux de congrès notamment, veulent, sur la carte mondiale, être plus présents, plus attractifs, il faut non seulement montrer qu'on peut le faire une fois, et qu'on peut le faire dans la durée. L'éco-certification, de mon point de vue, c'est un élément qui apporte un plus à un territoire. Et si en plus, comme aujourd'hui, on peut faire ça avec des entreprises engagées, avec des entreprises qui ont une longue expérience, mais d'autres qui sont également des jeunes pousses vertes, des start-up, comme on dit, eh bien, ma foi, on va créer un écosystème favorable. Et puis, ma foi aussi, si on est convaincu en termes de lutte pour la protection de la planète, eh bien, on apportera notre pierre à une construction qui a besoin de plus d'ouvriers aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Béatrice.
Merci pour cette intervention. Alors, c'est très intéressant parce que vous n'étiez pas là ce matin, mais ce matin, justement, on partageait cette ambition commune d'inventer des nouveaux récits, d'accélérer les choses, de bâtir ensemble. Et j'entends exactement ça dans votre message. Ce que j'entends, c'est qu'au-delà de l'événement qui sera, on l'espère, exemplaire, vous cherchez à lancer une dynamique qui puisse survivre finalement à l'événement. C'est une autre force peut-être des événements. Vous avez parlé des territoires. Effectivement, Philippe Augier faisait ici allusion au fait que France Congrès va se saisir de cette volonté, de cette ambition que vous proposez pour accompagner les territoires désireux d'aller plus loin vers leur offre de tourisme d'affaires éco-responsable. Là, vous êtes devant une salle de professionnels de l'événementiel. Donc, peut-être, d'ailleurs, un certain nombre d'entre vous, contribuez-vous déjà à l'organisation du G7 ou vous allez le faire. Pour vous, quel serait votre rêve au niveau de la filière événementielle? Comment est-ce que cette filière, elle peut se saisir de cette volonté affichée par l'Élysée, donc, hein, vous l'avez dit, et de ce qui va être mis en œuvre, de cette exemplarité pour accélérer, franchir un cap? Est-ce que vous avez des idées, des billes à nous donner?
Je n'ai pas de leçons à donner à des professionnels du secteur. J'en ai rencontré quelques-uns qui me rappelaient des souvenirs sur des choses extraordinairement innovantes qu'ils avaient pu faire à un moment donné. Gad, qui est là juste en face de moi, par exemple. Je crois qu'il faut tout d'abord qu'autant que possible, on sache qu'il y a dans ce domaine-là la capacité, une capacité permanente d'invention et que l'invention, le renouvellement, au-delà de l'aspect événementiel sur lequel on voit toujours l'aspect plutôt bling-bling, non, c'est la capacité de faire bouger, y compris sur des sujets de fond. Et je pense que ce sujet de l'exemplarité et environnementale et sociale sont des éléments extrêmement importants. C'est-à-dire connecter finalement l'événementiel avec la longue durée, connecter l'événementiel avec les citoyens. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est un travail d'équipe. C'est bien que l'événementiel veuille être plus vert, plus socialement responsable, etc. Mais il faut qu'il y ait en face une attente, une demande. Si les territoires, quelle que soit leur taille, je dirais adhèrent, se mobilisent, il y a déjà les éléments d'un dialogue fructueux. Troisièmement, c'est vrai qu'au niveau international, c'est un outil de notre rayonnement. Il y a des pays qui, même plus que nous, je le regrette, mais on va sans doute se rattraper, on fait de l'attraction d'événements majeurs, et pas simplement les Jeux Olympiques, il y a plein d'autres événements. Eh bien, on en fait un enjeu à la fois économique, social et environnemental. Social et environnemental, en montrant qu'ils sont capables d'être exemplaires en la matière, ça attire un certain nombre, je dirais, d'événements, mais en sens inverse, ça donne une image du pays, finalement, qui est extraordinaire. Parce que fondamentalement, chaque fois que nous accueillons et participant à un événement majeur sur notre territoire, c'est une occasion en or de vendre qui nous sommes, ce que nous savons faire, et puis nos spécificités, en bien, parfois en mal, mais ça fait partie de notre charme. Et fondamentalement, cette action d'influence, elle est essentielle. Je pense que l'aspect RSE, l'aspect exemplarité sociale et environnementale sont extrêmement importants. Maintenant, soyons quand même très honnêtes, nous ne sommes pas encore les meilleurs de la classe. Et je pense qu'il faut, sans honte et sans se dissimuler la réalité des faits, il faut encore progresser. Et c'est un travail qui nous prendra encore certainement un peu de temps. Mais à la fin, et même pendant le chemin, nous y gagnerons beaucoup en termes de crédibilité, en termes d'attractivité et du coup aussi en termes de qualité de la vie à la fois et d'un autre côté en termes d'activité. Voilà.
Un grand merci. Et puis, alors, vous ouvrez, on peut l'applaudir, effectivement. Merci. Et puis, voilà. Santiago, je crois pas que vous vous êtes parlé, mais en tout cas, c'était une invitation et une ouverture parfaite sur des ambitions que, semble-t-il, nous partageons à beaucoup ici. Donc, je te laisse la scène. Et nous présenter ce que tu comptes faire de ChangeNow, ce que tu comptes faire du rayonnement de la France, notamment sur les sujets d'impact à l'international.
Très bien. Merci Béatrice. Je vais juste prendre le clicker derrière. Et merci beaucoup pour l'invitation, Béatrice, parce que justement, ça colle en termes de timing à beaucoup d'actualités qu'on a eues dernièrement. Et justement, on va pouvoir vous dévoiler ici en avant-première, puisque justement la communication part vraiment lundi prochain sur justement ces nouveautés qu'on va proposer par rapport à un par rapport à ce qu'on fait. Alors, ChangeNow, qui connaît ChangeNow dans la salle ? Ah, quand même, j'aurais pas cru. Mais très bien, c'est un bon début, ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, et même pour reprendre un peu l'historique, ChangeNow est né d'un constat. Le constat qu'il y avait beaucoup de solutions qui émergeaient un peu partout et qui pourtant avaient du mal à scaler. Et moi qui venais de la tech, en fait, je me suis rendu compte que là, dans la tech, il y a des événements clés, type le CES à Las Vegas, le Web Summit, VivaTech en France par exemple, qui rassemblent l'ensemble de l'écosystème et qui permettent de faire avancer l'industrie. C'est pareil aussi dans l'aéronautique, il y a le Bourget par exemple. Et le constat tout simple était de dire, en fait, si on est un entrepreneur ou une entreprise qui essaye tout simplement de changer le monde, d'améliorer la planète, de nettoyer les océans, il n'y avait pas encore un endroit très clair où on savait qu'on pouvait rencontrer au même moment les investisseurs, les partenaires corporate, les médias, la sphère politique engagée sur ces thématiques. Et en fait, voilà, là, on avait vu tout à l'heure Meet My Mama, Lita. On voulait créer justement un espace où des entrepreneurs comme ça pouvaient se dire bah, ça, c'est clairement la maison où il faut que j'aille tous les ans, l'endroit où il faut que j'aille tous les ans parce que je vais rencontrer les bonnes personnes pour faire avancer le business. Donc ça, c'est pour l'idée d'origine. Et on a lancé ça à Troyes il y a 2 ans, de manière complètement indépendante, initiative entrepreneuriale et presque citoyenne. Et en 2 ans, là, en fait, sur la 2e édition qui a eu lieu en septembre dernier, on a rassemblé 6000 personnes, 500 solutions à travers le monde de 87 pays, une vingtaine de maires internationaux qui étaient venus également pour rencontrer les solutions. Bref, en soi, là, on disait ce matin que la France était en avance sur ces sujets-là. Et là, j'ai envie de dire, c'est vrai. Et en effet, en 2 ans, on a réussi, à force de rassemblement de l'écosystème, de fédération, à créer ce qui est devenu aujourd'hui, déjà avec 6000 personnes, le plus gros rassemblement mondial des solutions pour la planète. OK, maintenant, pour la suite. Où est-ce qu'on va ? Pour savoir où est-ce qu'on va, il est aussi important de revenir un peu dans l'histoire. Voilà, il y a 550 ans, il y avait la révolution industrielle. Pour montrer l'état de l'art du progrès de cette époque-là, on avait créé les expos universelles. On est allé chercher partout dans le monde qu'est-ce qui se faisait de mieux par rapport au progrès de l'époque. Là, on est 150 ans plus tard. Et 150 ans plus tard, on est en train de vivre une nouvelle révolution, qui est environnementale et sociale. Et il y a ce même besoin d'aller montrer quelles sont les solutions qui sont en train d'émerger, celles qui vont faire l'avenir durable qu'on est en train de chercher. Et donc c'est pour ça que pour l'année prochaine, on va revenir en fait sur les traces de l'Expo 1900 et on va lancer la première World Expo, la première Expo universelle des innovations pour la planète au Grand Palais en janvier 2020. Voilà. Là-dessus, on attend...
Bravo. Merci. Bravo.
Alors, là-dessus, quelques chiffres. On attend 20 à 30 000 personnes sur cet événement. L'idée, c'est vraiment voilà, de passer le seuil de ces grands événements, à toucher le niveau des grands événements internationaux type voilà, être ce CES de l'impact. Donc, 20 à 30 000 personnes, 1 000 solutions qu'on va aller chercher un peu partout dans le monde à travers tous nos réseaux partenaires. Donc, c'est 13 500 mètres carrés, un énorme volume qui, d'un point de vue responsabilité, a aussi ses contraintes. Et ça, on pourra en parler un tout petit peu après, et 120 pays qu'on va rassembler. Alors, c'est un lieu emblématique, pour le coup. Et ça, c'est aussi un choix. On parle aujourd'hui de raconter les nouveaux récits événementiels. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que le lieu est une part tellement importante du récit qu'on essaie de raconter. Et nous, dès le début, on s'était dit, en fait, quand on parle d'impact social, environnemental, on ne veut pas qu'on en parle seulement dans des lieux périphériques, dans des recycleries, dans des incubateurs, mais vraiment dans les endroits les plus emblématiques qui soient. D'où le choix de Station F au début, et qui, aujourd'hui, avec la croissance, nous pousse à aller justement sur ce lieu chargé d'histoire, chargé de modernité, puisqu'en fait, c'est là où il y a eu tellement de technologies qui ont évolué au début. Et donc, c'est pour ça le choix du Grand Palais. Alors, juste pour terminer là-dessus, 2 points importants aussi. Donc, celui de l'éco-responsabilité, premièrement. Donc, on a plein de challenges, et ça, nous, déjà, on avait fait l'essai, on a appris sur les 2 premières éditions. Ce qu'on sait faire, c'est intégrer les solutions dans la construction même de notre événement. C'est-à-dire que, par exemple, Meet My Mama, c'est eux qui avaient fait tout le food court de Change Now l'année dernière. On avait des solutions, par exemple, pour les badges, c'était du stone paper. On ne voulait pas de plastique, donc au moins, c'était indéchirable et on évitait toutes les pochettes plastiques. C'était un événement zéro plastique. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Enfin, on avait plein d'innovations comme ça qui étaient à la fois des speakers, des démos et qui faisaient partie intégrante du design de l'événement. Et là, cette année, justement, dans le design de l'événement, on a un grand enjeu. C'est, on a donc 13 500 m², une hauteur sous plafond de, je crois, le plus haut, c'est quasiment 50 mètres à un moment. Donc, c'est un énorme volume. On est en plein hiver et il va falloir chauffer. Donc, pour faire ça, on va lancer un appel à projet mondial des solutions de chauffage de lieux d'événements éco-responsables. On en a déjà détecté quelques-unes qui utilisent par exemple la chaleur fatale de data server pour chauffer des espaces. C'est des choses qu'on va explorer, on va faire un appel mondial pour justement trouver quelles sont les meilleures solutions. Ça n'en sera peut-être pas une seule, mais une combinaison de plusieurs qui permettront de chauffer de manière responsable un volume comme ça. Et enfin, s'il y a un petit mot pour la fin, puisqu'on est là pour parler aussi du rayonnement français. On a choisi, dès le début, on s'est implanté à Paris, parce qu'on a aussi la conviction intime que la France a une histoire, a des valeurs, qui la place vraiment, qui a un ADN qui la place à même de pouvoir porter ce leadership. Et aujourd'hui, ça se voit à plusieurs niveaux. Je dirais, si on regarde les grandes entreprises environnementales, juste pour dire par exemple Veolia ou Suez, sont françaises, les leaders mondiaux là-dedans. Le leadership d'Emmanuel Macron sur le Make a Planet Great Again, pareil, l'économie circulaire, pareil, est en pointe en France. Et donc, nous, on s'est dit, Paris est le bon Paris. Bon, sans mauvais jeu de mots, mais voilà. Et en tout cas, moi, j'ai été allé à la Silicon Valley un moment, et là, quelqu'un m'a dit, ici, c'est génial, à la Silicon Valley, c'est comme être à Florence lors de la Renaissance. Ben moi, je pense que pour toutes les révolutions, on a besoin justement de cette Florence, d'un endroit qui rayonne. Et nous, on fait le pari que justement, à la France et Paris peuvent être le bon endroit pour ça.
Merci. Monsieur le député de Paris, qu'en dites-vous ? Est-ce que vous voulez bien nous dire donc déjà un grand merci à Boon Tan, député de Paris, qui a beaucoup travaillé, qui travaille beaucoup sur les sujets de rayonnement international, qui fait partie, si je ne m'abuse, de la commission tourisme à l'Assemblée nationale, de nous faire le plaisir de passer un petit peu de temps avec nous et d'écouter nos problématiques et nos rêves en tant que filière événementielle. Boon, est-ce que tu peux nous dire ce que t'ont inspiré ces deux beaux témoignages et nouveaux récits événementiels ?
Bon, tout d'abord, merci de m'avoir invité pour partager ce moment avec vous. Moi, ça me fait chaud au cœur de voir justement des gens aussi engagés sur cette problématique. Je pense que c'est un petit peu c'est le sens de l'histoire, c'est l'avenir. Et la France, vue de l'étranger, restera toujours, je pense, la ville lumière et la ville où les découvertes se font, les poésies s'écrivent, et puis restera toujours, la France restera le pays du romantisme. Et malgré tout ça, je pense que nous avons encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeurs, beaucoup d'avantages à faire passer, à mettre en avant. Et c'est, je pense, aujourd'hui, un jour important. Nous sommes en train de lancer ensemble beaucoup de projets qui feront que demain, Paris sera, j'en suis convaincu, un bon Paris. Et j'entends là donc que c'est janvier, c'est ça, prévu le. Nous sommes en février. Pourquoi ne pas vous parler et faire ensemble un grand événement, marier l'ensemble, et que la France soit demain la terre des événements responsables.
Bravo. Belle idée.
Je pense en effet que si je peux juste ajouter un tout petit truc, justement le choix en fait, nous le Grand Palais c'est quelque chose de beau, de grand, qui a une chance pour ce secteur-là, en effet, pour rayonner. Et justement, on appelle, c'est une plateforme qu'on essaie de créer, donc on appelle tous les partenaires, les événements qui veulent profiter de cette opportunité-là pour se réunir et faire quelque chose de magnifique.
Très bonne idée. Bon, moi, je m'occupe en fait de, comme disait Béatrice, plus précisément, je suis à la commission des affaires étrangères, mais je suis depuis très longtemps le tourisme. Tout ce qui, j'étais adjoint au maire en charge du tourisme avant, et je suis encore aujourd'hui administrateur de l'office de tourisme de Paris. Et ce sont les sujets, je pense, très importants parce que c'est ce qui va dicter ce qui va être l'économie de cette industrie en fait dans l'avenir. Et aujourd'hui, nous avons déjà beaucoup d'acteurs dans le tourisme qui commencent à développer des filières, des tours éco-responsables, qui commencent à rechercher justement des façons de visiter des lieux sans les perturber, sans les saccager, qui commencent également à regarder comment on peut avoir des habitats qui sont plus responsables en termes d'énergie. Et donc, je pense que c'est un travail commun. Il y a tant à faire. Il n'y a pas seulement juste des tour opérateurs ou juste des créateurs d'événements ou juste des politiques qui font chacun dans leur coin. Je pense que c'est un travail en commun. Et c'est uniquement comme ça qu'on pourra faire que demain, nous soyons tous responsables vis-à-vis de nos enfants et de nos petits-enfants. Et j'irai plus loin en disant que je pense que si nous faisons le travail tout seul en France, ça ne suffira pas. Il va falloir que nous tendions la main aux mêmes personnes, aux mêmes créateurs, aux mêmes gens qui sont impliqués partout dans le monde pour qu'on puisse construire une solution ensemble. Il y a beaucoup d'échanges maintenant de part et d'autre de la Manche, de l'Atlantique. Nous avons des échanges de biens, de produits, mais également beaucoup d'échanges de services. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus continuer à nous développer ou à construire des solutions seuls. Et je pense qu'un lieu, justement, un événement comme ce qui est prévu au Grand Palais, doit être le lieu, le réceptacle, le vivier où tout le monde doit venir pour puiser les idées, pour partager, pour donner, mais également trouver d'autres idées. Et je crois beaucoup moins à la rencontre des idées qui font naître d'autres idées. Et je pense que à ce niveau-là, la France doit être encore une fois leader. Et je vous donne rendez-vous dans quelques années. Je suis convaincu que vous avez fait le bon pari.
Merci beaucoup, Boone, pour cette intervention. Tu peux peut-être les rejoindre et t'asseoir. Avant de prendre vos questions, j'ai vu dans la salle des gens dont j'aimerais bien entendre. Arnaud, je lance. Je crois que tu travailles pour... vous avez le même patron, quelque part, avec Jean-Pierre Thébault. Tu t'occupes de la communication des événements pour l'Élysée ? Je n'ai pas de micro. Non, bah, je vais parler pour...
ouais. Alors, donc, je m'occupe précisément du pôle image de la présidence de la République, voilà, et de l'image du président.
Dont les événements.
Dont les événements, comme le G7, de nombreux sommets, les conférences de presse, le grand débat national, les événements exceptionnels, et ainsi de suite.
Alors, ma question, tu l'imagines, c'est-à-dire que là, le G7, a priori, j'ai entendu que c'était un souhait de la présidence de s'engager vers cette exemplarité et de pousser le marché. Est-ce que c'est un souhait ponctuel ou alors est-ce que c'est quelque chose qui, toi, t'es demandé sur l'ensemble des événements dont tu viens de parler ?
Alors, il faut déjà distinguer les événements effectivement très ponctuels sur lesquels on ne va pas pouvoir mettre...
Tu peux peut-être te lever si tu veux.
Ah, comme vous voulez. Oui,
les gens te voient.
Pardon, bonjour. Effectivement, c'est assez mal poli. Donc effectivement, il faut distinguer déjà les types d'événements sur lesquels on travaille, des événements sur lesquels on va pouvoir mettre en place cette stratégie et cette volonté, même si elle est indéniable et à la base de tout. Maintenant, il y a aujourd'hui une réelle réflexion de transversalité sur l'intégralité, non pas des événements que de la présidence, mais aussi des différents ministères, très clairement. Donc on cherche des solutions pour coordonner tous nos amis et mettre en place une réelle logique de responsabilité sociétale, voilà, et de développement durable.
Ok, ben, merci pour ce témoignage. Si tu as autre chose à ajouter ?
Non, ça me fait plaisir de venir et de sortir un peu.
On est vraiment très utiles, hein, ouais. Bah oui, bien sûr. Il y aura peut-être des questions aussi pour toi.